Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués ce matin. C'est vraiment un ministère que vous êtes en train d'accomplir chaque dimanche dans les cœurs, dans vos propres cœurs déjà aussi, dans le cœur des autres. Et j'étais encouragé ce matin par votre travail et votre service que vous rendez pour le Seigneur, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de votre accueil. Je commence à faire de plus en plus connaissance de vous depuis 3 semaines maintenant. Et c'est vraiment une joie de pouvoir me déplacer finalement. Et j'aurai beaucoup de bons souvenirs. Oui. J'ai des bons souvenirs. Merci vraiment. Vraiment, nous louons le Seigneur pour toute cette église. Je loue personnellement le Seigneur parce que je vois que vous aimez vraiment la parole. Ça, c'est rare, du moins en France. Et c'est encourageant, c'est vraiment encourageant, et j'aurai beaucoup de bonnes choses à dire à propos de vous dans mon église locale, mes églises locales en région parisienne. Voilà, on a même parlé d'ailleurs avec Nilsson et les jeunes hier pour savoir si éventuellement ils peuvent passer aussi pour avoir des contacts avec les jeunes adultes chez nous aussi, donc ça serait des bonnes choses en tout cas. Donc prenons la parole de Dieu. Alors, on continue à étudier la deuxième lettre de Timothée, à Timothée par Paul. Donc, il y a 2 semaines, nous avons vu la sainte motivation pour l'évangile de Jésus-Christ que Paul est en train de communiquer à Timothée. Et puis, il y a 2 semaines, en groupe, nous avons vu aussi l'apostolat de Paul pour l'évangile du Christ et sa compréhension de la grâce de Dieu, comme nous avons loué ce matin sur ce thème de la grâce de Dieu. Et puis hier aussi, on a eu l'occasion d'étudier avec les jeunes, toujours dans la lettre à Timothée, sur cette question des passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse n'ont pas résisté sur place, mais toujours à fuir. Et toujours dans cette série d'études, ce matin et Dieu voulant cet après-midi aussi, nous allons réfléchir sur la formation pour l'enseignement et la transmission de l'enseignement. On va essayer de penser avec ce titre sur le passage de Timothée. Et nous sommes toujours dans cette grande série je vous ai proposé dans le sprint final, c'est-à-dire la course finale de l'apôtre Paul, la dernière ligne droite qu'il est en train de tracer, même en tant qu'homme affaibli. Il nous communique une lettre qui revigore nos esprits. Donc c'est le sprint final, demeurer fidèle au sein des dernières épreuves. Alors pour ce passage de 2 Timothée chapitre 1, verset 11, jusqu'au chapitre 2, 7, je vous invite à prendre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous allons lire, et nous allons pouvoir nous incliner aussi derrière pour que le Seigneur nous aide à nous concentrer dans la compréhension de sa parole et ce qu'il a à nous communiquer ce matin. Donc 2 Timothée, chapitre 1, verset 11, jusqu'au chapitre 2, verset 7. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur réponde sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Demande encore le soutien et l'aide du Seigneur pour que nous soyons concentrés pendant ces moments à l'écoute de sa parole. Seigneur, nous te remercions encore une fois et nous te prions pour que nous puissions comprendre ce qui est dit dans ce texte. Que Seigneur, toi-même, tu nous donnes ta grâce, que tu nous fortifies et que tu nous donnes l'intelligence en toutes choses. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, je vous propose ce plan d'étude pour que vous ne soyez pas trop perdus avec le temps qui nous est imparti. Alors, dans un premier temps, on va voir la souffrance paulinienne dans l'œuvre de l'Évangile pour se former. La souffrance de Paul dans l'œuvre de l'Évangile pour se former. Et puis après, on verra aussi le modèle paulinien, le modèle de l'apôtre Paul, des saines paroles. Puis en dernier lieu, on verra la fidèle transmission de l'enseignement selon la méthode paulinienne. La fidèle transmission de l'enseignement selon la méthode paulinienne. Donc c'est un plan parmi bien d'autres pour cette étude. Et ce qui m'a beaucoup encouragé même ce matin, ces frères qui étaient là de Roumanie, ils ne comprenaient pas du tout le français, ils cherchaient une église romaine. Donc je leur ai donné au moins ce passage, si vous pouvez lire dans leur Bible romaine. Donc c'était finalement, la parole de Dieu est suffisante en elle-même. Et tout ce que nous faisons dans l'œuvre de la prédication, c'est d'être un peu cette porte-parole sur ce qui était déjà écrit et la mise en avant et la glorification de cette parole écrite. Donc la souffrance paulinienne dans l'œuvre de l'Évangile pour la formation. Alors trop souvent, hein, comme j'avais dit hier aussi, dès qu'on parle de la formation, souvent il y a plusieurs étudiants ici et des jeunes qui sont en stage parfois. Lorsqu'on parle de tout cela, de la formation, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est une salle d'études ou des examens, même pour les enfants, des examens écrits, des épreuves orales, des thèses pour certains à présenter. Donc toute cette faculté intellectuelle, si on peut dire comme ça, c'est ça qui vient à notre esprit dès qu'on parle de la formation. Mais ici, lorsque Paul demande à Timothée la transmission de son enseignement, je ne sais pas si vous avez remarqué, il le prépare à une formation bien particulière. C'est la formation de la souffrance. Et le nombre même d'occurrences du mot souffrance dans cette lettre, rien que dans la lettre de 2 Timothée, est environ 6 ou 7 fois même. Et je vais vous lire quelques versets justement où l'apôtre Paul parle de ces souffrances qu'il a personnellement vécues pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Dans le verset 1-8 par exemple, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi sans prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. » Verset 1, chapitre 1, verset 12, qu'on vient de lire. « Et c'est à cause de cela que je souffre. » Il y a un mot différent par rapport aux autres mots ici qui évoque pasco, patient, presque la souffrance de Jésus-Christ qu'il a aussi vécu. Et il n'en a point honte, il dit, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Chapitre 2, verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Chapitre 2, verset 9, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Chapitre 3, verset 11, mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche ou à Icône ou à Lystre? À Lystre où Timothée se trouvait. Donc Timothée était au courant tout à fait des souffrances de l'apôtre Paul. Il était presque dans sa ville. Chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Je ne sais pas si dans cette salle, je prie du moins, s'il y a un homme ou des hommes qui aspirent à l'œuvre pastorale, à l'œuvre de pouvoir transmettre l'enseignement de Dieu à son peuple. Puisque le Seigneur nous appelle, sachez frères que nous ne devons pas nous leurrer, nous ne devons pas nous faire des illusions en disant que l'œuvre de l'Évangile c'est comme une marche sur le tapis rouge, avec parsemé de plein de pétales de roses. Non, l'œuvre est mêlée de souffrances Mais sachez que l'œuvre, sachant que l'œuvre est mêlée aussi de joie en Jésus-Christ, cette joie abondante qu'il nous donne, des déceptions certes, mais aussi de la reconnaissance, aigre douce, des moments de solitude, de l'abandon aussi. Ici, Paul, il parle de deux hommes qui l'ont abandonné en plein cours du ministère. À cause de la prédication fidèle de l'Évangile, il y aura de ceux qui peuvent abandonner. L'œuvre de l'Évangile a donc un prix que nous devons tous payer. Donc Paul respire ici la souffrance presque comme ça fait partie maintenant naturellement de sa vie en fait. Mais c'est là qu'on dégage aussi sa puissance. Il souffre pour Christ, mais en même temps il prend de l'assurance dans toute cette souffrance. Et si vous lisez dans 2 Corinthiens, là on n'a pas le temps, chapitre 11, versets 23 à 27, il fait toute une liste des souffrances qu'il a endurées. Et parfois, vous aurez, et certainement moi j'ai eu des larmes aux yeux en regardant en détail toutes sortes de souffrances que l'apôtre Paul a subies pour l'évangile, pour transmettre cet évangile aux païens, et notamment à l'Europe, quand il est arrivé la première fois. Donc cela peut paraître, dans un premier temps, décourageant. Mais oh, combien c'est bon pour moi, combien c'est bon pour vous d'être sous le joug du Seigneur. Et Jésus-Christ lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous étudions ça dans la lettre aux Hébreux, dans la semaine. Donc l'apôtre sait que le jour de son appel sur la route de Damas même, lorsque le Seigneur l'appelle, il sait qu'il va souffrir pour apporter l'évangile parmi les Juifs et surtout parmi les païens en Europe, parmi ceux de l'Asie mineure. Il sera pourchassé par ses compatriotes. Il sera battu. Et c'est ce qu'Ananias, hein, il reçoit exactement la même instruction aussi. Dans Ananias, il est dit dans Actes 9, 15, 16, il dit, mais le Seigneur lui dit, donc à Ananias, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc Timothée doit savoir, et tout homme appelé à l'œuvre pastorale, et j'espère, je prie dans cette salle, plus d'un homme, il doit savoir que ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent transmettre l'évangile de Jésus-Christ, doivent souffrir. Et ceux qui sont consacrés pour l'œuvre de l'évangile, nous devons passer par ces mêmes tribulations que les apôtres ont passées parfois. Bien sûr, nous ne sommes pas au même degré de souffrance. Gloire à Dieu, parce que nous prions et nous remercions pour la France qui nous donne la liberté de pouvoir nous réunir même publiquement et de pouvoir prêcher la parole. Mais sachez que même dans la liberté, celui qui veut vivre pour l'évangile, dans l'école du Seigneur, il va souffrir. Et ce n'est pas seulement pour les pasteurs, la souffrance. C'est un lot pour tous les chrétiens. Nous ne souffrirons probablement pas comme ces hommes, parce que c'était très dur l'église primitive où ça a commencé, quand Dieu il a bâti son œuvre à travers ses hommes. Mais nous aurons néanmoins des rejets. Même dans vos universités, il y aura un rejet, il y aura une incompréhension. Certains peuvent vous pendre pour des extraterrestres parfois, dans l'école. Et oui, ça arrive, et nous ne devons pas avoir honte de tous ces rejets, ou même parfois des abandons des amis qui nous sont chers, parce que nous avons épousé l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre dit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Tant la fidélité de Dieu nous réconforte, qu'il garde notre dépôt, le dépôt de notre vie spirituelle, de notre vie matérielle, comme notre persévérance jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens vont subir parfois des coups durs dans le travail, perte d'emploi parfois, des épreuves difficiles, des infirmités et la faim même pour certains chrétiens, des veilles. Et nous pouvons en faire une liste, toutes sortes d'injustices que des chrétiens, par exemple dans la Corée du Nord, que la sœur nous a partagé. Kosoyan, elle nous a bien partagé pour prier pour ces deux pays. En quelque sorte, on peut voir peut-être une sorte de paix, mais derrière, il y a toujours des machinations humaines. Mais en tant que chrétiens qui avons cette jouissance de la liberté dans nos pays, ici, à l'Occident, à l'Ouest, nous pouvons et nous devons planifié même de prier pour nos frères et sœurs dans ces pays. Je pense au Moyen-Orient, je pense à ces pays asiatiques. Et passer vraiment du temps pour prier pour eux. Lire les articles dans la vie pratique, vous avez plusieurs associations qui donnent des informations sur des pasteurs et des chrétiens, nos frères et sœurs qui souffrent pour l'évangile. Et ils sont exposés comme, quelque sorte, ces apôtres ici que nous avons lus. Mais nous avons tous cette sainte vocation de non seulement souffrir, mais aussi de nous réjouir en Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui nous fait la grâce. Il est écrit dans Philippiens. Dieu, il nous a fait non seulement le don de la foi en Jésus-Christ, de vivre dans la fidélité, dans la loyauté pour Jésus-Christ, mais aussi le don de souffrir pour Jésus-Christ. C'est une grâce. Nous devons considérer comme une grâce de Dieu. Et c'est ainsi que les vrais chrétiens peuvent démontrer la grâce fortificatrice, si on peut dire comme ça, la grâce que nous avons lue dans ce passage. Fortifie-toi en Jésus-Christ dans sa grâce. Donc si nous voulons jouir de toute cette plénitude, de cette grâce, nous devons passer par cette école de souffrance. Et en transition, je vais continuer avec cette formation par l'obéissance dans les souffrances. Nous avons aussi dans notre passage un encouragement à suivre la formation en considérant un modèle. Nous avons ici une formation par modèle. Et souvent, quand vous allez dans un nouvel emploi, par exemple, surtout pour les étudiants qui font des stages ou en alternance, il y a toujours un mentor qui vous montre un modèle. C'est un des méthodologies dans la transmission des informations. Et ici, l'apôtre Paul, il donne aussi ce modèle. Il dit « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Timothée, il avait déjà reçu de l'apôtre Paul, de la main de ses impositions, du don qu'il a reçu Timothée. Et c'est ça qui ranime un peu sa flamme. Et ici, nous voyons aussi des saintes paroles que tu as reçues de moi. Les paroles pleines de santé, d'équilibre, et qui apportent, qui revigorent notre être spirituel. Donc la construction de la colonne et de l'édifice de la vérité par l'apôtre pour l'Église, c'est la façon comment il a transmis son propre modèle à travers ses instructions selon l'ordre de Dieu. Donc ils ont reçu, ces apôtres, un message spécifique de construire dans le modèle des saintes paroles. Paul a écrit même en dernière phase de sa vie, et c'est encourageant pour Timothée, de retenir donc dans la foi, dans l'amour en Jésus-Christ, toujours motivé par l'amour de Jésus-Christ, tous nos services, toute notre force que nous pouvons tirer par sa grâce, à transmettre le modèle des saintes paroles qu'il a directement reçues et que nous avons entre nos mains, cette parole de la Bible. À quoi ressemblerait notre construction de l'œuvre ? Ça, c'est une question que nous pouvons songer en tant qu'Église collectivement. Dans quel modèle des saintes paroles reposent-elles nos œuvres d'Église locale ? Et cet édifice spirituel que nous allons transmettre, c'est comme un père de famille, une mère et des parents qui transmettent un héritage d'une maison, par exemple, aux enfants. Et pareil, l'Église a un héritage, chaque membre est une pierre vivante. Et en tant qu'Église, collectivement, quel édifice spirituel que nous pouvons transmettre à la génération suivante, notamment en France, là où nous sommes appelés à servir, pour que les jeunes puissent retenir. Dans 1 Corinthiens 3, 10, 11, cherchez pas, je vous le lis, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Donc l'apostolat est, selon ma conviction, est unique. Parce qu'il pose comme un sage architecte et d'autres bâtissent. Nous sommes en train de bâtir là-dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus le Messie, Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10, 11. Donc voilà le modèle des saintes paroles que nous trouvons tout au long des écrits de l'apôtre Paul. Il communique à ses fils spirituels. et nous pouvons le communiquer à nos fils et nos filles biologiques ou spirituels en tant que parents, à retenir jusqu'au dernier sprint de notre vie. J'ignore combien de temps le Seigneur nous laissera ici-bas, mais nous avons cette mission de transmettre le modèle des saintes paroles que nous avons reçues de l'apôtre Paul. Donc la qualité de ces paroles sont saines parce qu'elles sont fondées, elles sont solidement ancrées en Jésus-Christ. Dans quel modèle des saintes paroles que nous bâtissons l'œuvre de la construction de l'Église et jusqu'à quand? Et je vous donne une anecdote. Le propriétaire d'une société de construction, en fait, il avait un maître constructeur qui travaillait pour lui depuis plusieurs années. Et là, maintenant que le maître constructeur, il arrive à sa retraite bientôt, donc le propriétaire lui demande de lui construire une toute dernière maison avant de prendre sa retraite. Donc, en vue de la retraite, le maître constructeur a déjà l'idée de où il va passer ses vacances et quelle croisière, quel pays, etc. Donc, forcément, son cœur n'était pas du tout au travail. Il ne faisait pas attention à l'habileté des artisans qu'il a choisis. Et quant aux qualités des matériaux, de toute cette construction qu'il a choisie, c'était de moindre qualité, vraiment. Il a même violé parfois les codes de construction dans certains endroits du bâtiment, cette maison. Et puis finalement, il a fini son travail, puis il a restitué le produit. Et puis le propriétaire de la compagnie vient voir, il dit « Voici les clés, cette maison est votre cadeau de retraite. Wow. » Vous comprenez bien l'état d'esprit du maître constructeur, comment il était engourdi de regrets. Donc selon l'apôtre et son modèle des saintes paroles, chacun doit faire attention à la manière dont il construit aujourd'hui l'œuvre, mais aussi jusqu'au bout, jusqu'à la dernière ligne droite, jusqu'au sprint final. Et Salomon dira « Mieux vaut la fin d'une chose que son début. » Mais quel dommage que l'on ait eu un début glorieux peut-être, mais perdre la ligne finale, à l'exemple de ce maître constructeur qui a dû beaucoup regretter avant sa retraite. Donc le Seigneur nous aide donc, avec l'instruction de l'apôtre Paul, à ce que nous retenions vraiment dans la foi, vraiment dans l'amour en Jésus-Christ. C'est notre fuel, comme on avait dit hier avec les jeunes, quand on a discuté sur cette question de l'amour en Jésus-Christ. Et si nous sommes réveillés, pour certains d'entre vous, c'était certainement plus difficile que d'autres, parce que le corps n'a pas forcément suivi, mais vous êtes là, et rien que cette présence et stimulant, encourageant pour les autres chrétiens. Ce modèle en tant que chrétien, en tant que chrétienne, que vous laissez à la prochaine génération, quel que soit notre âge. Et nous avons reçu le modèle des saintes paroles de l'apôtre Paul de Tarse. Et j'aime bien ce leitmotiv, et j'ai vérifié l'autre jour, c'est bien dans votre église, la Bible, toute la Bible, et rien que la Bible. Ça, c'est vraiment un leitmotiv qui est si important en France. La Bible, toute la Bible et rien que la Bible. Donc il conclut cette section sur ce verset en disant « Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. » Si le dépôt de notre vie est en sûreté avec Dieu, la question qui se pose est de savoir combien nous acceptons les souffrances et jusqu'à quelle mesure le dépôt de sa vérité est-il en sûreté avec nous. C'est-à-dire combien la vérité de Dieu est imprégnée en nous et combien nous souffrons pour laisser pénétrer ces paroles de la vérité et que nous puissions aussi le partager avec nos compatriotes. La plus grande responsabilité du croyant, notamment s'il est appelé à exercer la prédication, à l'œuvre pastorale, à l'enseignement de la parole, c'est de garder et de défendre l'intégrité de la parole même de Dieu, le modèle des saintes paroles reçues de Paul que nous devons transmettre, pas seulement aujourd'hui, ces quelques années, mais jusqu'à la dernière destinée, le dernier souffle de notre vie. Comme Paul, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi. » Et cette couronne l'attend non seulement pas lui, mais aussi tous ceux qui ont aimé l'avènement de Jésus-Christ, nous tous qui aimons l'avènement de Jésus-Christ. Dans la troisième pensée, on va voir la fidèle transmission de Paul de cet enseignement selon la méthode paulinienne. Nous lisons dans 2 Timothée, donc on va relire ces premiers versets du main dans chapitre 2, versets 1 et 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus le Christ. Donc nous lisons dans ces paroles de notre apôtre le sérieux et aussi la solennité dans le mandat pastoral. C'est ça que nous devons retenir ici. Et il le communique à Timothée en lui disant clairement que le pastorat est un métier qui demande beaucoup d'engagement. Personnellement, je crois que c'est le plus beau métier et le plus noble métier qui puisse exister dans ce monde même. Et aussi une fonction tournée au public qui relève d'une grande responsabilité. C'est une responsabilité engageante, tant dans sa vie publique, mais surtout dans sa vie privée aussi. Tout l'être est impliqué dans cette œuvre pastorale. Et c'est ça le relayage spirituel, selon l'exemple de Paul. Donc, dans cette fidèle transmission de l'enseignement, on va voir en tout, trois sous-points, si on peut dire, le relayage spirituel de Paul dans cette œuvre, la formation des hommes enseignés par l'Esprit, la parole et les pasteurs. Et puis, nous allons voir aussi la responsabilité de l'Église vis-à-vis de ses enseignants. Donc, en relayant cet héritage spirituel que l'apôtre, pour le plus grand bien de l'âme, il donne pour l'espoir de toute génération, et même nous, pratiquement aujourd'hui, pour nos chers compatriotes français, comme ceux de toute nation qui sont accueillis, qui sont réfugiés en France, et même, sans oublier les Juifs, le nombre d'hommes et de femmes juives qui sont là dans ce pays, et qui sont aimés de Dieu selon l'élection de la grâce, eh bien nous avons un travail, chacun à notre niveau. Donc Paul ne cache pas, et nous avons vu en détail plus haut, hein, il dit « souffre avec moi comme un bon soldat ». Et là, il prend l'exemple du bon soldat dans ce relayage spirituel. Mais c'est une joie de savoir que ce sont des souffrances couronnées de gloire en Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a des photos ici, mais moi je suis du moins la Coupe du Monde. Et c'était une joie, il faut le dire. Et surtout une joie de savoir nos bleus, si on peut dire comme ça, venir avec cette trophée. Et c'est une épreuve, c'est une difficulté. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission, comment ils se sont entraînés pendant des mois. Et au bout du compte, au bout de la course, ils sont arrivés avec une couronne et une trophée. Et puis j'ai suivi même, ils étaient à 2-3 km dans le bus avec leur trophée et l'exposé et sur le Champs-Élysées jusqu'aux Élysées. Vous avez dû voir tout ça, bien sûr. Voilà, couronné de gloire en Jésus-Christ. Là, c'est des couronnes incorruptibles, dira Paul. Mais nous, nous courons pour une couronne. Ça, c'était pour des couronnes corruptibles, et nous, nous courons pour des couronnes incorruptibles. C'est ça que nous avons dans cette anecdote ici. Donc, un soldat aussi, il prend le soldat qui est dans le champ de bataille et qui peut être un officier ou sous-officier. Aujourd'hui, même dans les actualités, vous avez dû suivre des soldats qui ont perdu leur vie dans les combats dans l'Asie centrale et d'autres pays. Et j'ai retenu un des mots du monsieur le président de cette période en 2010. Il disait qu'ils avaient choisi de mettre leur vie au service de la France et de leurs compatriotes. En tant que chef de l'État, je m'incline devant leur mémoire. C'était une citation de monsieur le président Sarkozy en 2010. Donc, l'une des trois illustrations que l'apôtre prend, c'est celui-là. C'est un soldat qui souffre. Et ce sont des soldats qui ont presque engagé leur vie, littéralement. Ils ont dû quitter leur famille, leurs enfants. Et parmi ces soldats, il y avait un certain Lorenzo Mesalsama, j'ai noté, un Jean-Nicolas Panesic. En fait, c'est des gens qui avaient une famille, qui avaient une responsabilité familiale, mais en même temps, ils avaient un travail pour la patrie. Et c'est un peu l'illustration que l'apôtre Paul, il prend ici dans ces dernières semaines. Et ces dernières semaines, où il compte ses jours. C'est bientôt son exécution mortelle. Il sert déjà de libation. Et il dit, le moment de mon départ s'approche. Donc un pasteur, selon le cœur de Dieu, à l'image de Paul de Tarse, est celui qui sert de libation tous les jours comme un sacrifice vivant. Il choisit de mettre sa vie au service du Seigneur Jésus-Christ, à sa patrie céleste. Nous ne combattons pas pour une patrie terrestre, mais une patrie céleste. Et l'apôtre Paul dira, vous êtes des citoyens célestes quand il parle, quand il écrit aux Philippiens. Donc nous sommes en train de œuvrer avec nos compatriotes des citoyens célestes, pour notre patrie céleste, pour notre commandant de l'armée, Jésus-Christ, notre chef de file. Et c'est ça le mandat divin pastoral. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas cette grâce. Ici, il est question de la grâce qui fortifie les hommes, mais aussi il est de la grâce de Dieu qui sauve les hommes. Il est possible ici, même ce matin, des personnes qui sont probablement convaincues de leur péché. Et si vous ne l'êtes pas encore, l'Esprit de Dieu convainc du péché de vos cœurs. Sachez que Jésus-Christ est celui qui est mort et c'est l'unique nom de Jésus qui peut vous sauver. Il n'y a aucun autre nom dans le ciel, sous le ciel qui n'a été donné que le nom de Jésus-Christ par lequel vous devez être sauvé. Repentez-vous donc de vos péchés et recevez le Seigneur Jésus-Christ, recevez sa parole pour que vous soyez avec les gens, avec les hommes, avec les femmes qui appartiennent à Dieu, les gens de la maison de Dieu. Donc ça c'est une parenthèse que j'aimerais ouvrir parce que nous devons prêcher aussi le Christ crucifié dans ces cultes. Et nous vous prêchons Jésus-Christ crucifié, ressuscité le troisième jour. Croyez en lui et vous serez sauvés. Paul ajoute aussi ici une deuxième illustration des règles de l'athlète. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de courir. L'athlète, il a parfois une discipline rigoureuse. Il doit suivre pour être couronné avec une discipline très rigoureuse aussi. Et cette illustration de l'apôtre Paul, c'est très intéressant. Parce qu'aux Corinthiens, il va dire justement, tous ceux qui combattent s'imposent de toutes sortes d'abstinence, toute espèce d'abstinence. Et un athlète, il va se mettre des abstinences dans son corps. Il faut faire il faut accepter toutes ces abstinences pour penser à cette couronne un jour, à cette coupe. Mais nous, dira Paul, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté ou désapprouvé après avoir prêché aux autres. Que cette parole reste constamment dans nos cœurs, surtout à ceux qui enseignent la parole. Que je traite durement mon corps et que je le tienne assujetti de peur d'être moi-même rejeté ou désapprouvé après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. Donc dans cette formation, il y a un enseignement par l'esprit, par la parole et par les pasteurs aussi. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors en tant que baptiste, maintenant, je ne vais pas faire un sujet de glorification, mais personnellement, je pense, à mon sens, que ils sont, si je peux permettre de dire « ils », pour ne pas tirer une glare en disant « nous », ils sont les plus proches de la vérité de la parole. Donc, nous-mêmes, parfois, nous devons réfléchir à nos prédications, à nos prêches. Même si nous sommes proches de la parole, est-ce que nous prêchons comme l'apôtre Paul demande de prêcher, c'est-à-dire ce que tu as reçu de moi ? Est-ce que nos prédications tournent autour des problèmes parfois ou c'est plutôt des textes qui est roi de notre prédication ? Donc c'est le texte de Paul, c'est le texte de Pierre, c'est le texte de Jean, c'est le texte de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est sa parole qu'il commande et que nous devons enseigner pour des hommes et par des hommes, pour des femmes, pour des enfants, afin que les hommes soient capables de aussi transmettre à une future génération. Donc Paul, il couvre plusieurs générations dans ce seul verset. Il dit lui, à Timothée, à des hommes, et ces hommes qui couvrent une dernière génération aussi. Donc à chaque ère d'église, en touchant deux générations, ou trois générations, ou quatre générations d'enfants, adolescents, jeunes adultes et hommes, dans ce verset, Paul, il est en train d'établir une vision panoramique de chaque ère de l'église, y compris l'église contemporaine de 2018. Donc c'est ainsi que les églises se multiplie lorsque les disciples de Jésus-Christ sont multipliés, lorsqu'un vivier de pasteurs enseignants se multiplie à travers notre nation. Tout, en disant qu'il faut moins se confronter à des problèmes, c'est ça, l'idée c'est que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se préoccuper des problèmes des fidèles. Bien sûr, les frères et sœurs passent par des terribles souffrances parfois. Des problèmes sont là. Bien entendu, nous devons éprouver la même compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, avoir le même cœur pastoral du souverain berger, notre Seigneur Jésus le Christ, avoir le même esprit de visite des brebis, tel notre Seigneur Jésus-Christ nous a visités d'en haut. Mais en même temps, nous ne devons pas négliger à transmettre aux hommes fidèles et capables l'enseignement de notre apôtre Paul pour toute l'Église, en cherchant ainsi, je prends cette verset, en cherchant le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses vous seront données par-dessus tous. Si on cherche les textes de la parole, si on prend à partir des versets, à partir des livres, et qu'on puisse donner cet enseignement, le Seigneur comblera et nous donnera la force pour qu'on vive les épreuves parfois difficiles, qu'on vive ces problèmes parfois. Mais le texte de Dieu, la parole de Dieu, les mots de Dieu, de la Bible, doit être en quelque sorte en train de régner dans nos réunions de culte et d'adoration. Comment pouvons-nous pratiquer si nous n'avons pas appris Jésus-Christ ? Il est intéressant cette notion qui arrive dans la lettre des Éphésiens. Comment on peut recevoir et entendre l'apôtre Paul si nous ne l'avons pas lu ? Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, dira-t-il aux Philippiens, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens chapitre 4, verset 9. C'est donc une des cendres même de nos églises baptistes, de la France du Nord, au bassin parisien jusqu'au Sud. En traversant toute la France, c'est une des cendres que nous pouvons toujours avoir en tant que responsables de l'enseignement de la parole. Combien notre considération et concentration dans le plus grand soin et attention est donnée sur chaque lettre apostolique confiée par Dieu à l'Église, tant individuellement que collectivement. Donc pour ceux qui ont cette charge pastorale, est-ce que nous suivons réellement Paul dans la transmission consciencieuse et sans relâche de cet enseignement ? Parce que l'ennemi, bien sûr, il ne prend pas de vacances. Nous devons travailler. Si l'ennemi ne prend pas de vacances, combien nous avons besoin de œuvrer jusqu'à la dernière ligne droite. Et personnellement, j'étais dans ma vie plus motivé, ça ne veut pas dire que je suis moins motivé par des prédicateurs plus jeunes, mais encore plus revigoré dans mon esprit par les hommes qui ont atteint un certain âge. Parce qu'il y a une vie derrière. Parce qu'ils ont laissé pénétrer la vérité de Dieu en eux. Et rien que des mots d'exhortation à travers les textes de Dieu nous revigorent. Donc prenons pas de vacances. Donc si Paul était vivant ce matin, c'est pas les Écritures. Hein. J'ai imaginé une scène, il peut peut-être demander « Combien de mes lettres avez-vous médité, intégré, reçu et étudié individuellement dans vos foyers, dans vos familles et collectivement dans vos réunions publiques d'Église ?» L'Église peut s'interroger « Comment tant d'années durant mes lettres inspirées données aux Églises ne traverse même pas en survol dans les esprits, alors que mes frères et sœurs des églises primitives que j'ai implantées dans la Macédoine, dans l'Asie mineure, ils l'ont reçue en tant que parole de Dieu telle qu'elle l'est. Comme Jérémie le prophète, ces églises ont dévoré mes lettres et elles furent douces comme le miel. » Donc c'est bien sûr, Paul n'est pas assis hein, dans les bancs, mais c'est imaginaire. Mais il peut poser cette question s'il était vivant de leur temps, de ces églises qui ont petit à petit commencé à oublier les lettres de l'apôtre Paul et de Pierre et de Jean et de tous ces piliers d'hommes qui nous ont laissé ces saintes paroles. Pourquoi ? Parce que ces églises même ont commencé à se refroidir. De l'ère primitive déjà. Et il y a des paroles parfois à l'église d'Éphèse que l'apôtre Jean de Patmos donne. Donc la raison pourquoi les églises sont refroidies au fil des siècles et des décennies et ces millénaires, c'est parce qu'on a oublié d'enseignement le texte de Dieu des apôtres de Jésus-Christ, selon l'ordre de Dieu qu'ils nous ont écrit. Donc une application très pratique pour l'Église, pour nous tous. Le culte personnel. Le culte personnel et le culte familial. Est-ce qu'on peut se décider peut-être ce matin ou peut-être ce soir de se dire, si vous n'avez pas encore pris cette décision, de dire, je vais passer probablement 30 minutes tous les jours ou 20 minutes tous les jours à méditer personnellement la parole de Dieu. Donc je prends un temps le matin, à l'aube si vous voulez, ou le soir. Et ceux qui ont une famille, bien sûr, il faut prendre ce temps aussi pour étendre ce que vous avez reçu en tant que père de famille, mère de famille, aux enfants, dans la soirée peut-être, avec les enfants, si c'est plus pratique. Donc je dis, si les livres de méditation, les chants inspirés que vous pouvez chanter en tant que famille ou en tant qu'amis, étudiants qui vous réunissez peut-être, ça peut être une plat d'entrée. C'est la lecture méditative, l'étude des textes des apôtres, et notamment de l'apôtre Paul et de notre Seigneur Jésus. Et chaque livre de la Bible, lu ensemble, médité ensemble, qui sera le plat consistant. Ici, depuis 3 semaines, j'arrête pas de manger, du moins les dimanches. Et je mange bien. Et c'est des repas succulents qui viennent de plusieurs horizons, des pays différents. Et l'idée, c'est ça, en fait. Je dis que les méditations, les livres de méditation sont très bien. Ouais. Il y a plusieurs livres qui sont très, très bien. Et les chants que nous chantons, c'est merveilleux. Des hommes qui ont écrit, il faut remercier le Seigneur. Donc, ça sera nos plats d'entrée, quelque part. Mais il faut du plat consistant. Il faut une nourriture solide. Et c'est là où on prend les textes. Faire des études en série avec la famille. Et lire ensemble. Et une des choses dont je remercie à mes parents et notamment mon père, c'est qu'il a rigoureusement pris cette habitude. Et puis, même si on est en train de somnoler, il faut être dans le culte de famille. Donc, on peut tomber on peut avoir des coups de barre, mais on sera là quand même, on doit être là quand même à 19h ou 20h et parfois même plus tard. Parce que les enfants ont besoin d'être nourris, parce que le monde sait très bien, et l'Académie nationale française sait très bien où il faut former, à quel moment il faut former, et quand il faut donner, à quel âge il faut donner. C'est la raison pourquoi, dès l'âge de 3 ans, on va à l'école. Et donc les enfants, et notamment les enfants de ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont besoin de recevoir le modèle de ces saintes paroles. Donc nous aussi, baptistes, sommes-nous assez fidèles et versés dans l'Écriture, un peu comme Esdras, pour enseigner aux enfants, aux hommes et femmes, quotidiennement, tout le conseil de Dieu dans les églises locales à travers ces lettres envoyées aux églises locales. S'il en s'applique pas ainsi, et j'espère qu'il n'en sera pas ainsi, dans une décennie, je ne sais pas combien d'entre nous seront encore là, ici-bas, il ne faut pas s'étonner d'avoir formé un groupe d'hommes et de femmes, excusez-moi pour le terme ignare ou ignorant, sans instruction spirituelle, parce que les jeunes de 7 ans, ils ont 27 ans d'ici 20 ans. Parce qu'ils ont manqué d'études, parce qu'ils n'ont pas manqué d'études supérieures, post-bac. Parce qu'ils n'ont pas manqué d'études à présenter des thèses, et c'est bien tout ça. Mais parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas appris chez eux Jésus-Christ crucifié. Parce qu'ils n'ont pas appris ce que nous avons reçu des apôtres et de l'apôtre Paul. Donc c'est à nous de penser maintenant, réfléchir, programmer, planifier nos agendas pour ces cultes de famille, pour ces cultes de l'individu. Si vous êtes père de famille, d'abord en tant qu'individu. Donc la négligence de l'Église aujourd'hui aura un lourd impact dans la génération de demain. Et puis, un mot entre parenthèses, que nos problèmes de jalousie parfois, dans l'Église même, que des disputes enfantins, débiles, sans parler des déviations de conception théologique, même parfois entre les pasteurs, et que cela ne nous distrait pas. C'est vraiment enfantin ces choses-là. Et que nous ne soyons pas déviés de la vision de Jésus-Christ. Être remplis de l'amour de Jésus-Christ, être formés selon l'image de Jésus-Christ et selon l'image même, quelque sorte, on peut dire, de l'apôtre Paul, parce qu'il dit « Imitez-moi comme j'imite Jésus-Christ ». Donc prenez-moi comme modèle. L'apôtre Paul, il a osé le dire ça. Et je crois qu'on peut le dire ainsi. Suivre les traces de l'apôtre pour bâtir l'église de Jésus-Christ, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Ceci étant dit, bien sûr, je suis toujours fasciné et d'entendre et voir des églises, nos églises locales, et même celles-ci, comme des églises modèles de Macédoine, presque. Comme de Philippe ou de Thessalonique, qui soutiennent des hommes et des femmes missionnaires, qui étudient des mois et des années sans relâche. Hier, j'étais en train d'imprimer des choses pour les enfants derrière, et ils étudient Jacques, les enfants. C'est merveilleux. Toutes les églises ne font pas ce genre d'études bibliques ou études de classe pour les enfants. Et c'était avec une sainte ardeur que nous faisons et que nous devons continuer à faire et transmettre chaque lettre de l'apôtre Paul et du Seigneur Jésus-Christ. C'est là les vraies églises croissant dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, et dans la croissance de sa grâce. Donc je prie et prions que notre France soit remplie abondamment et davantage d'un vivier de jeunes disciples, hommes, femmes et des jeunes pasteurs, un vivier de serviteurs. Et Dieu, il a déjà commencé cette œuvre déjà depuis plus d'un siècle. Même si c'est un pays qui a persécuté, il accueille des hommes de Dieu. Et nous sommes réjouis toujours de voir des hommes qui viennent de tous les horizons du monde. Et notamment, je pense à tous ces continents, aussi bien de l'Asie ou de l'Afrique ou de l'Amérique, qui viennent en Europe. Et là, je me rejoins avec les Européens pour les remercier pour ces disciples qui sont très utiles pour l'œuvre de Dieu ici en France. Et que le Seigneur soit notre guide pour nous fortifier dans cette œuvre aussi pour les hommes qui sont appelés au pastorat. Et je suis toujours ému et touché de voir tant d'églises qui sont fondées. Quelle que soit la taille, il y a des hommes qui ont, fidèles qui ont travaillé et nous honorons en quelque sorte ces hommes. C'est un hommage que nous rendons ce matin aussi pour ces hommes et ces femmes missionnaires que vous connaissez bien. Parce qu'ils ont décidé de dispenser droitement la vérité de la parole de Dieu. J'aurais bien aimé finir ma prédication ici, mais en réfléchissant cette semaine, je ne pouvais pas m'empêcher avec cette dernière pensée sur la fidèle transmission de Paul. Et là, j'ai intitulé « La responsabilité de l'Église envers ses pasteurs enseignant sur la méthode paulinienne ». Et je prends ici un peu la liberté en tant que, à cause de ma fonction laïque, hein, et que je suis plus impliqué dans des entreprises laïques. Et ça me donne un peu plus de liberté pour transmettre cette dernière pensée très pratique pour l'application de votre église. Et en tant que membre aussi d'une ou deux églises locales, selon votre situation à chacun, à penser ensemble, c'est de notre responsabilité, dira Paul, en tant qu'église, envers ses pasteurs enseignants, de faire une œuvre, de travailler, comme plusieurs d'entre nous nous faisons. Et dans le souci de former des enseignants de qualité, de transmettre de génération en génération la doctrine de notre foi biblique, Paul, il n'a jamais oublié d'écrire cela. Et je crois que, une des raisons, je crois que c'est l'Esprit Saint qui l'a poussé, parce qu'il n'y a pas une chose que, comme on dit, il a loupé. Paul, il a tout écrit. Et je vais prendre plutôt la première lettre maintenant, chercher avec moi dans 1 Timothée. Première lettre de Timothée, chapitre 5, verset 17-18. C'est un peu un message... une application que je vous laisse de cœur à cœur. 1 Timothée, première lettre de Timothée, chapitre 5, versets 17 et 18. La parole de Dieu dit, « L'Esprit de Dieu, inspiré, nous écrit ainsi. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, » et l'ouvrier mérite son salaire. » Et dans Galates 6:6, c'est un frère qui m'avait rappelé ce matin ce passage, « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Et il se réjouissait parce qu'il a été accepté dans une des grandes entreprises en Inde en tant qu'ingénieur. Et une de ses vocations, son ministère presque, on peut dire ainsi, c'est aider des hommes en tant que frère de l'Église. Et c'est lui qui m'avait rappelé ce verset de Galates 6:6 qui n'était pas dans mes notes au début. Et à ce sujet, Paul va dire à l'église de Philippe qu'il soutenait financièrement, il va dire « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Donc je le mets un peu en pratique et il m'a paru utile de vraiment pas s'arrêter à l'avant-dernier point et venir jusqu'à ce point parce que c'est engageant pour l'église et c'est une responsabilité pour l'église, de toute l'église locale et même de toutes nos églises locales, hein, baptistes, indépendantes, qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ en France. Et je peux prendre ce verset de Philippiens 4:17 en disant « Ce n'est pas que le pasteur à plein temps, notamment à plein temps, et je sais qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas à plein temps, qui font le travail comme un pasteur à plein temps, je pense aussi à eux. Ce n'est pas que le pasteur à plein temps ou mi-temps, qui œuvre d'une église locale baptiste, recherche les dons. » Et c'est ce que Paul écrit. « Mais Paul recherche le fruit qui abonde pour votre compte bancaire à chacun de vous, à chacun de nous. » Je crois que le message, vous comprenez, vous saisissez. Donc si les fruits abondent pour notre compte bancaire, et si l'enseignement de la parole transmise doit être dispensé sérieusement avec beaucoup de temps investi, chaque semaine, l'une des situations que nous constatons, du moins en France, je ne connais pas d'autres pays beaucoup, mais en France du moins, c'est que souvent le compte bancaire du pasteur baptiste à plein temps est sec. Les églises baptistes indépendantes parvenues à la maturité doivent réfléchir, et j'ignore dans la pratique, dans l'application de ce message, quand est votre assemblée générale, mais en tout cas, il est de la responsabilité des membres de cette église, de ceux qui aident l'église, de proposer ce qui est juste et équitable. Si Dieu fait abonder certains de nos comptes bancaires, il le fera, gloire à Dieu. Il nous accorde du travail. Et ça vient de lui. Et nous le remercions jour après jour pour ceux qui ont travaillé. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour le travail qu'il nous donne. Et que toute l'Église soit donc engagée ensemble pour cet enseignement tout entier. Parce que le monde est en train de périr. On a tous donc une responsabilité. Et vous avez certainement entendu, j'ai partagé la semaine dernière, cette femme est en train de mourir entre la mort et la vie suite à cette percussion de sa voiture, là où elle était par une autre voiture. Donc, la société est en train de périr. Il faut donner un espoir pour la génération. Et c'est l'Église qui peut donner cet espoir. C'est la parole de Dieu qui donne cet espoir. Donc, avec toutes ces pensées, cette responsabilité, nous devons être encore plus conscients du besoin de l'Église en France, en tant qu'Église parvenue à maturité, dans l'œuvre de cet enseignement que nous devons transmettre, que Timothée a reçu, que nous avons reçu tous de la part de l'apôtre. Donc, dans l'application pratique, franchement, je ne me suis même pas renseigné d'ailleurs. Je ne voulais pas me renseigner à quelle hauteur votre pasteur et son épouse sont soutenus par son église locale. Mais j'avais simplement à cœur de vous transmettre, et je ne lui ai jamais parlé de ces questions. Ça m'est venu à l'esprit et j'avais à cœur de vous le transmettre dans ces 5-10 dernières minutes. Et je crois que cet enseignement est bien sûr applicable à toute église locale. Et en tant que Français et Françaises et ceux qui viennent d'autres pays et qui vivent en France, qui jouissent de toutes ces bénédictions que nous avons, songeant à notre responsabilité, à ce que l'apôtre Paul donne comme l'ordre de Dieu, ce n'est pas mes paroles, ce que nous sommes en train de lire, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit qu'il y a une responsabilité de l'Église envers ses pasteurs enseignants. Donc en concluant, on va rapidement voir tout ce qu'on a appris aujourd'hui ce matin. La souffrance de Paul, c'est notre formation en tant que chrétien. Et en tant que pasteur, nous devons souffrir pour ceux qui sont appelés pour l'œuvre, ou dans le stage, ou dans le diaconat, quel que soit votre travail que le Seigneur vous a confié, et que le Seigneur puisse donner d'hommes qui puissent se lever ici même dans cette église. Et nous avons le modèle de l'apôtre Paul, des saintes paroles que nous devons suivre, et aussi cette fidèle transmission de l'enseignement selon la méthode de l'apôtre Paul. Et nous continuerons, Dieu voulant, cet après-midi aussi, toujours sur le sujet de la formation pour l'enseignement et la transmission de l'enseignement, avec d'autres passages des Écritures dans la deuxième lettre de Timothée. Je vous propose qu'on prie ensemble. Merci de votre patience et de m'avoir accordé quelques minutes supplémentaires pour transmettre ces messages un peu de cœur à cœur. J'ai essayé de passer les préoccupations un peu de mon cœur par ma tête. Merci pour votre attention. On va prier le Seigneur. On va laisser un petit moment de silence. On va prendre ce moment ensemble et on va prier le Seigneur pour qu'il nous bénisse. Seigneur, que ton esprit puisse diriger nos pensées avec le contenu de tout ton message, de toute cette parole, de toute cette lettre, de cet homme que tu as choisi et que nous sommes toujours fascinés, nous sommes toujours dans l'admiration de voir combien tu es capable de transformer un homme pécheur, violent, et si l'on peut dire même un homme qui a terrorisé ton peuple, les chrétiens, et tu l'as transformé. Merci pour ton œuvre que l'esprit seul peut faire. Merci pour que tu vas accomplir ta parole, tu vas exécuter ta parole et tu nous aides à appliquer ta parole dans cette semaine, dans notre réflexion, dans notre culte, dans notre travail, respectivement là où nous sommes placés, et que tu nous donnes toute la force, le courage et la grâce et la paix et ta miséricorde. Et nous t'en supplions et que nous fassions usage de toute ta parole à bon escient, chacun d'entre nous selon notre responsabilité, l'œuvre pour laquelle tu nous appelles chacun spécifiquement. Que tu sois glorifié, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci de votre attention.